dans notre émission En Différence, consacrée à la différence que constitue le handicap. Dans cette émission d'introduction, nous avons aujourd'hui la chance d'interroger Thibaut Chambriard. Alors, vous organisez la journée de sensibilisation au handicap ce 26 avril. Alors, dites-moi, quelle est, en première question, ce qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas pour tout le monde, qu'est-ce que la journée de sensibilisation au handicap à l'ENS de Lyon ?
Bonjour. Alors, une journée de sensibilisation, c'est un mot un peu fourre-tout. Moi, je vais juste essayer de vous dire le sens que j'essaye d'y mettre. Et pour moi, une journée de sensibilisation, c'est un moment où on peut donner la parole aux personnes qui sont concernées, soit qu'elles soient elles-mêmes en situation de handicap étudiante ou professionnelle, soit que leur objet de recherche ou que leur objet professionnel ait un lien avec la question des entraves. Donc, ce que c'est qu'une journée de sensibilisation du handicap, telle qu'elle est pensée à l'ENS, c'est un espace d'expression dédié à des personnes qui ont des choses à dire, parce que la question du handicap est celle de l'environnement et de la capacité de l'environnement à analyser et à s'adapter. Donc ça demande des compétences, des connaissances. Et si cette année le visuel de cette journée était une lune, c'est parce que beaucoup de choses restent à comprendre, à découvrir, à la fois dans le champ scientifique, mais aussi dans l'espace, j'allais dire, grand public. Beaucoup d'ignorance, et puis beaucoup de croyances, d'éléments qui nous déterminent sans même qu'on les perçoive. Donc ça s'appelle la culture, quoi, mais beaucoup de freins. Donc cette année, les trois axes étaient sur des troubles qui sont à l'origine d'entraves qui ne sont pas visibles, à savoir les troubles du spectre de l'autisme, qu'est-ce qu'ils peuvent produire. La question de ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles 10, sans doute ça évoluera cette appellation, mais aujourd'hui c'est comme ça. Et puis la question de ce que peuvent produire les troubles auditifs. Voilà.
D'accord. Donc quelles sont les activités proposées au public au cours de cette journée ? Et au-delà de la sensibilisation, est-ce l'interaction que vous souhaitez favoriser à travers ces activités ?
Alors le programme, il commence par un temps d'accueil, on va dire un café d'accueil, où au gré des rencontres faites cette année avec des étudiants ou des professionnels, j'ai invité des personnes à venir témoigner d'une start-up qui a fait de la question de l'hygiène dentaire des personnes empêchées un objet d'innovation, une personne qui a eu un cursus à l'ENS et dont les enfants sont nés avec une déficience auditive et qui a développé en tant que mère, mais finalement avec un regard assez scientifique aussi, une approche qui visiblement a été féconde pour ses enfants et surtout qui a une capacité à parler des compétences qu'elle a développées qui est très fine. Et puis la bibliothèque d'Hydro de Lyon qui aura un espace dédié avec des livres sur les thèmes abordés. Et puis des locomotriciennes qui viendront faire essayer finalement les nouveaux outils pour se déplacer quand on ne voit pas, qui ont été mis en place dans le cadre de l'accessibilité du site Descartes. Et puis encore un étudiant qui a participé au Dynamo Days avec l'École des Mines de Saint-Étienne. Dynamo Days où il y a des défis qui sont proposés et puis à des étudiants qui sont dans l'école et qui vont avoir 48 heures pour y répondre. Et son défi à lui, c'était de pouvoir écrire en LaTeX, qui est un logiciel d'écriture mathématique, avec une succession de touches à la place des doubles touches que lui ne peut pas réaliser. Voilà.
Merci beaucoup. En tout cas, on aura la chance de rencontrer quatre personnes au cours de cette journée. Ce sera Éléonore Lebrun, Élie Gédéon, Benjamin Cohen et Stéphane Imbert. Qui sont-ils ? Donnez-nous des précisions.
Alors, juste, j'ai quand même oublié quelques éléments, c'est très bien, votre question me permet d'aller au-delà du café d'accueil, parce qu'après le café d'accueil, effectivement, il y aura une intervention de monsieur Élie Gédéon, que vous avez interviewé, visiblement, ou que vous allez interviewer. Et donc Élie Gédéon est un ancien élève de l'école, qui a des troubles du spectre autistique, qui travaille aujourd'hui pour Autisme Consult, et dont le cursus, comme beaucoup d'étudiants qui ont ce type de situation, a été complexe. Il sera accompagné, même il sera devancé par monsieur Sébastien Liedos, qui est un étudiant agrégatif de chimie, qui a été accompagné par la mission handicap cette année, et qui est, l'un comme l'autre, sont très fins sur la manière d'aborder la question de ce qu'est l'autisme, pas seulement dans leur situation, de manière très large, un discours extrêmement précis, plein d'humour, argumenté, très subtil. Après, donc, vous avez cité M. Imbert, Stéphane Imbert, qui est enseignant spécialisé à la cité scolaire René Pellet, qui lui, avec quelques élèves, va proposer une initiation au Torbal. Torball, qui est un sport d'origine allemande et qui se pratique masqué, donc où chacun est masqué. Ensuite, il y aura une intervention de Madame Lebrun, donc sur la question des troubles de l'audition, mais surtout de quelle place ils peuvent prendre dans un cursus scolaire, quelle place ils peuvent prendre au sein d'une famille, comment ça s'est passé au sein de sa propre famille. Mais au-delà de sa propre famille, c'est quelqu'un qui a une parole extrêmement fine aussi sur ce que c'est que ce grand mot qui est sorti à tout bout de champ sans souvent être maîtrisé, qui est celui de l'inclusion. Donc c'est très très fin. Et puis après, une intervention d'Audrey Mazur-Palandre, qui est une chercheure qui a mis en place un MOOC sur les troubles 10.
Donc effectivement, en fait, on va pouvoir assister à différentes interventions. Alors, ma question, en fait, pour on va dire, conclure votre intervention, est-ce que vous pensez que, au niveau de l'université, quelles sont les missions, justement, de la mission handicap ?
Alors, les missions d'une mission handicap, c'est un peu redondant, mais c'est quand même des missions, donc répondons aux missions. Le principe d'une mission handicap, c'est de proposer des aménagements dans le cadre d'études et dans le cadre d'examen. Quand on dit ça, on n'a pas dit beaucoup de choses. Ça signifie rencontrer des personnes, échanger avec elles sur les entraves qu'elles peuvent rencontrer en fonction de leur contexte. Extrêmement important, cette dimension-là. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver entravées à un moment de leur cursus alors qu'elles ne l'étaient pas avant, parce que les conditions vont changer, parce que le niveau, par exemple, va être différent. En tout cas, c'est analyser des situations de personnes. Et puis, parfois, souvent même, on les analyse en termes de difficultés. Donc, le travail avec les étudiants, c'est d'essayer de voir, finalement, quels besoins se cachent derrière ces difficultés. Et puis, quand on a défini ces besoins, quels peuvent être les aménagements susceptibles d'y répondre. Et on distingue donc deux dimensions, les besoins qui vont pouvoir être exprimés dans le cadre des études, on va dire les moments d'apprentissage, et puis ceux qui concernent les examens. Et ensuite, quand on a pu faire ce travail-là, quand l'étudiant a pu exprimer ses besoins, on les inscrit dans un plan d'accompagnement, et l'étudiant va ensuite rencontrer la médecine universitaire ou la médecine de prévention s'il est salarié normalien. Et ces services de médecine vont établir une congruence ou pas des besoins exprimés avec la dimension de la pathologie. Ensuite, l'étudiant va avoir à communiquer sur son plan d'accompagnement auprès de son directeur et du gestionnaire de scolarité. Quand je dis communiquer, s'il va simplement reprendre cette dimension de besoin et obtenir des signatures, c'est une manière pour nous, Mission Handicap, d'inviter l'étudiant à parler de ses besoins, absolument pas de sa situation de santé, hein, mais de ses besoins. Et puis ensuite, le secrétaire de scolarité va me transmettre ce plan d'accompagnement qui, pour validation, sera signé par la vice-présidence études au nom du président. Une fois que le document est signé, on considère qu'il est valide, quoi, qu'il est actif. Et moi, je vais le retransmettre à l'étudiant et à l'ensemble des signataires. Ensuite, quand ça se passe bien, c'est simple. Parce qu'on a défini des besoins et puis on a les outils qu'il faut pour y répondre. Puis quand c'est plus complexe, on peut se réunir avec le médecin, avec l'étudiant et puis avec les enseignants pour faire que ça se passe le plus efficacement possible.
Merci beaucoup pour votre intervention. Et est-ce que je vous laisse le dernier mot pour la fin ?
Ah, ça c'est... Alors le dernier mot pour la fin, ce serait de dire qu'il y a une joie d'apprendre. En fait, quand on rencontre les personnes, et cette joie d'apprendre, elle est partagée. C'est très émouvant de voir qu'il y a des étudiants qui finalement ne situaient pas leurs besoins, avaient un trouble et puis s'exprimaient en termes de pathologie, j'ai ceci, je suis cela, mais ne situaient pas ce que ça pouvait induire de manière très précise dans leur cadre d'exercice. Et ce travail d'exploration, il est commun. Et c'est un apprentissage pour la personne, et c'est un apprentissage pour moi, parce que au travers de ces rencontres, je m'aperçois à chaque fois de cette nécessité de mettre de côté ce qu'on connaît. Moi, je suis enseignant spécialisé de formation, mais à la fois, plus on a un bagage, plus il est important de le mettre de côté pour rencontrer les personnes et puis explorer avec elles ce qui se passe et ne pas plaquer sur des noms de troubles, des aménagements qui seraient complètement inadaptés, quoi. Voilà. Et merci de votre implication, Myriam.